BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Et puis tous les jours et toutes les nuits, si vous nous écoutez en podcast, en dehors de notre fuseau horaire. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. C'est vendredi, les experts de l'IMO se réunissent pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au logement neuf. État de santé des promoteurs, des constructeurs de maisons, comment vont les artisans? On reviendra sur le congrès des promoteurs qui se tenait cette semaine, quel est l'état d'esprit dans ce contexte politique? On reviendra aussi sur la proposition d'ensemble sur la suppression des frais de notaire, alors frais de notaire entre guillemets, hein. Pour les primo-accédants, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Nos experts, ce sera Marie-Cœur de Roy, Guillaume Erard du Figaro, entre autres. Et puis vendredi, on investit dans les cryptos. Amaury de Tonquédec viendra nous faire le point sur la semaine Web3 et crypto-monnaie. Au programme, il y a vous. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis ce matin, en tout cas en direct, et à nous saluer. Alors on vous salue à votre tour, à notre tour, Gilles, Guillaume et Vincent. Et nous partons du côté de Euronext pour faire le point sur une séance, écoutez, dans le rouge, du côté du CAC. Et oui, il n'y a pas de miracle depuis ce matin. On reste en baisse, notre CAC 40 reste en baisse et on se dirige dangereusement vers notre plus bas de l'année, Antoine.
Ben oui, comme quoi les marchés, ils ont déjà voté à deux jours du scrutin pour les législatives françaises et il est clair qu'on signe une contre-performance. Alors, c'est sans doute la contre-performance en intraday la plus marquée depuis bien longtemps puisqu'on a un CAC 40 qui recule de 0,58%. On se retrouve au plus bas depuis fin janvier à 7487 points. On est quasiment 200 points au-dessus de nos plus bas annuels qui datent vraiment du tout début de l'année. On a une contre-performance marquée déjà alors par rapport à l'ensemble des valeurs techno parce qu'on a un Euronext Tech Leader qui surperforme largement, plus 0,14%, mais les autres indices européens, eux, ils sont résolument dans le vert. Avec le DAX à Francfort qui gagne même 0,47% alors que l'Eurostock 50 est en hausse de 0,03%. Alors, les raisons de ce déséquilibre, évidemment, c'est la prime de risque qu'il y a sur nos marchés face à l'échéance législative de ce week-end. On a des prises de bénéfices alors marquées sur pas mal de groupes qui ont connu des destins boursiers un petit peu chaotiques ces derniers jours, notamment Airbus qui recule d'1,68% à 128,44. On a L'Oréal, moins 3,68% à 407,30 €. Et puis les valeurs du luxe qui sont vraiment attaquées. Hermès, moins 1,3% en état 2143 €. Pernod Ricard aussi qui recule d'1,13% à 127,05. Du côté des valeurs à la hausse, ArcelorMittal, plus 1,8% en état 21,62. Renault, plus 0,97 à 47,76. Et AXA, plus 0,66 à 30,57. La plus forte hausse du SBF 120. Tiens, elle est pour Casino, qui gagne 3,3% à 3,51 €. Alors qu'Atos s'écroule totalement encore. 1 €, le titre est en baisse de 13,4%. Moins 0,64 pour le CAC 40, on est à 7482 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on cote en ce moment à 1,0696. On bouge pas trop depuis ce matin, Lorraine.
Antoine, merci pour ce point. Le CAC 40 au plus bas depuis fin janvier. Ça nous emmène à votre histoire financière à suivre.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Bah oui, parce que si on remonte à la source de cette contre-performance, cette contre-performance du CAC 40, qu'y a-t-il ? Eh bien, il y a le marché obligataire. Vous allez nous raconter comment les chiffres là commencent à devenir spectaculaires.
Ben oui, parce qu'on monte à 3,25% désormais pour l'OAT français 10 ans. 3,25. On avait terminé la semaine dernière à 3,10. On était sur ce niveau-là juste après l'annonce du résultat du scrutin des européennes et l'annonce de la dissolution. Donc là, il y a vraiment une prime de risque supplémentaire qui est en train de s'installer. Pour vous donner un comparatif, le rendement de l'obligation 10 ans portugaise est 3,24. On est un point de base en dessous. Donc, il se passe ce qu'on dit depuis une quinzaine de jours, c'est que la France officiellement est rentrée dans la zone des pays du sud de l'Europe, des dettes périphériques, comme on dit, et plus péjorativement du Club Med. Mais voilà, globalement, on se retrouve avec un rendement qui est entre celui du Portugal et de l'Espagne. Alors, Pourquoi ? Ben, c'est tout simple. Nos problèmes budgétaires, ça, on se les traite depuis des années et des années. On voit qu'on a encore alourdi le score de la dette, hein, ce matin, bien sûr. On voit que les agences de notation, dont Standard & Poor's, qui a abaissé notre de crédit d'un cran, nous rattrape régulièrement dessus. Ça, c'est pas une nouveauté. Le problème, c'est l'hypothèque d'instabilité politique. Quoi qu'il sorte des urnes ce week-end, on peut prévoir des nouveaux dérapages budgétaires et des trajectoires économiques qui vont se retrouver aggravées et alourdies par une nouvelle majorité et un rabattage des cartes radicales pour des options qui vont s'annoncer radicales, quelque direction qu'elles soient. On va être dans une situation qui va être bien plus négative qu'avant, avec des perspectives très très incertaines et encore une fois des difficultés de refinancement de cette dette. Une mise en difficulté aussi des entreprises qui ont un profil de dette lourdement endettée en bourse. Et on le voit, ça commence à véritablement être un plafond de verre pour un certain nombre de valeurs. Les valeurs de croissance, bien sûr, qui financent justement par la dette leurs bénéfices futurs. Donc voilà, un enchaînement qui risque de provoquer alors une baisse sensible du CAC 40 si ça continue, si on passe des caps symboliques comme les 3,3 ou qu'on remonte à 3,5%. Hein, c'était les plus hauts qu'on avait atteints l'année dernière. Et ça risque de véritablement constituer un poids considérable et de long terme sur les performances du marché actions, et on risque même de signer une contre-performance marquée par rapport à l'ensemble du continent européen.
Voilà, taux athée à 10 ans, on va dire dangereuses tensions qui sont à surveiller. Merci Antoine pour votre analyse, votre regard sur l'obligataire et sur les marchés toute la semaine. Antoine, qu'on retrouve dès la semaine prochaine dans Tout pour Investir et tout au long de notre antenne matinale sur BFM Business. À suivre, on va parler immobilier. Oui, il faut bien parler d'immobilier comme tous les jours. On va même parler du neuf. On va faire du neuf aujourd'hui. À suivre avec nos experts et Marie Cardouin qui arrive.
Tout pour Investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO, comme tous les vendredis, une demi-heure pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va faire du neuf. Bonjour Marie Cardoy.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous êtes venue en studio accompagnée d'une part de Guillaume Hérard, notre confrère immobilier du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Un habitué du plateau, et ce n'est pas parce que c'est la fin de la saison, comme on dit à la télé et à la radio, qu'on ne peut pas accueillir des nouveaux. On va donc bizuter Céline Coletto ce matin. Bonjour Céline.
Bonjour à tous, merci de l'accueil.
Vous êtes journaliste sur une institution qui porte très bien son nom et qui va tout à fait nous éclairer aujourd'hui. Trouver un logement-neuf.com. Voilà, on sait qu'avec vous, on va parler du neuf, n'est-ce pas, chère Marie ?
Exactement, mais d'abord, parce que ça concerne et le neuf et l'ancien, je pensais qu'on pourrait faire un petit point crédit. On en a parlé avec Antoine Larigauderie sur les marchés, on voit que les taux d'intérêt de la dette française sont quand même pour le moins sous tension, compte tenu du contexte évidemment politique. Je vous regarde tous les deux. On en est où d'abord sur les taux d'intérêt ? On disait qu'ils baissaient, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et quelles sont vos perspectives, Guillaume, Céline, lequel veut commencer ?
Je vais commencer. C'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de commencer par des bonnes nouvelles. Pour le coup, c'est vrai que le contexte est assez compliqué. Les taux continuent de baisser. On interroge les banques et les courtiers qui nous disent « Ok, d'accord, y a un contexte politique qui est crispé, mais les banques continuent et même frappent à la porte des agents pour dire « Donnez-nous des dossiers, donnez-nous des dossiers
ouais. ».
On a eu une bonne petite nouvelle cette semaine sur le pouvoir d'achat immobilier. Meilleur taux nous dit que ces 6 derniers mois, le pouvoir d'achat, donc en gros, c'est la surface que vous pouvez acheter en mètres carrés selon la capacité d'emprunt, selon le crédit, le taux de crédit, a augmenté de 3 mètres carrés. En France, vous me direz, c'est pas énorme. Ouais, sauf que entre ces 5 dernières années, ça avait augmenté d'une vingtaine, ça avait baissé d'une vingtaine de mètres carrés.
Oui, parce qu'on a une conjonction d'éléments depuis le début de l'année qui est une baisse des taux d'intérêt, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas autant que certains l'espéraient, mais on a quand même perdu, je crois, en moyenne un demi-point, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis, on a cette petite baisse de prix quand même.
Exactement. Donc, du coup, on se retrouve avec des villes qui perdent, d'achat augmente de 4 à 5 mètres carrés. Je peux citer Saint-Etienne, Le Havre, mais aussi des villes comme Lille, Strasbourg, Toulouse. Donc, c'est vraiment général. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu une petite crise politique,
Parce que là, on regarde dans le rétroviseur.
Voilà, exactement. Et c'est demain, c'est dans deux jours, on aura le premier tour. Et aujourd'hui, on nous dit, pour l'instant, pas d'affolement, mais quid dans une semaine, selon les résultats qu'on nous annonce.
Alors, du coup, dans deux semaines. Enfin, du coup, 10 jours, on va dire.
Ouais, 10 jours, exactement.
Oui, bien sûr, mais dès le premier tour, il peut se passer aussi en fonction des résultats.
Et on l'a vu, d'ailleurs, après les élections européennes, les deux jours qui ont suivi, l'OAT, qui était autour de 3%, est passé à 3,3%. Si ce scénario se répète, Aujourd'hui, on nous dit, tant que les taux... l'OAT, donc on rappelle, c'est le taux auquel l'État emprunte et sur lequel se basent les banques pour fixer leur taux de crédit. Tant qu'il n'a pas atteint 3,5, en tout cas c'est ce que les banques nous disent, pour l'instant, on n'augmente pas nos taux. On est capable de digérer cette hausse d'OAT. Si on arrive à cette OAT à 3,5, là, il y a un risque de hausse des taux de crédit.
Percevez comment justement ce marché du crédit immobilier qui reste l'alpha et l'oméga qu'on souhaite acheter dans l'ancien comme dans le neuf, est-ce que vous pensez sincèrement que ce contexte électoral peut vraiment aller finalement à l'encontre de toutes les prévisions des courtiers et des spécialistes de l'immo qui nous disaient qu'on allait continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année au moins? Est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause ou que c'est juste une espèce de parenthèse possible?
Ça risque de pas être une parenthèse, parce que déjà dès l'annonce surprise de la dissolution, le lendemain les taux OAT ont augmenté en France et pas en Allemagne. Ils ont encore augmenté là dernièrement, donc il y a eu l'effet un peu surprise dès le lendemain matin, et puis à nouveau là cette semaine. Donc si ça augmente pas en Allemagne, ça stabilise et chez nous ça augmente, c'est clairement il y a un effet. Après, est-ce que les banques vont répercuter sur les taux du particulier ce qu'ils vont avoir eux pour emprunter de l'argent? C'est ça, parce qu'en fait, comme il y a moins d'acheteurs, ils sont aussi à la course au dossier.
Mais est-ce que, par exemple, là, Céline, on pourrait dire à nos auditeurs et téléspectateurs, si vous avez un projet, dépêchez-vous un tout petit peu, parce que quand même, cette incertitude...
Nous, c'est ce qu'on a ressenti sur nos sites dès le lendemain, en fait. Paradoxalement, c'est que le lendemain, on a eu un frémissement. Alors, on est sur des volumes très faibles en ce moment, il ne faut pas se le cacher, dans le neuf, c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, on a eu un petit frémissement, et parce qu'on a commencé à dire, les taux vont remonter. Alors, est-ce que certains ne se sont pas dit, allez, c'est peut-être la fenêtre de tir?
Est-ce qu'on peut avoir une logique intraday, un peu comme les traders, si on est investisseur immobilier actuellement, et se dire, OK, là, j'ai une fenêtre de tir de 10 jours? J'y vais.
Ouais, c'est quand même court, parce qu'il faut trouver le bon produit, etc. Mais de toute façon, notamment dans le neuf, il y a de quoi, il y a des opportunités à saisir.
Il y a des queues de programme là.
Il y a des queues de programme, il y a des offres commerciales à saisir. Les promoteurs, effectivement, ont des choses à vendre en ce moment. Donc, il faut en profiter. Il y a des frais de notaire offerts, mais on nous parle même de garages et de places de stationnement offerts. Donc, oui, il faut en profiter. Enfin, moi, je pense que c'est le bon moment. Et puis, il y a la fenêtre de tir du Pinel aussi, qui va s'arrêter à la fin de l'année. Et ça, à mon avis, c'est oui, il faut en profiter parce qu'on sait justement, on sait pas trop ce que sera l'avenir.
Donc justement dans cette attitude un tout petit peu, alors là Céline nous disait que effectivement ils avaient vu quand même un petit sursaut de recherche à l'annonce de la dissolution. Il y a d'autres choses qui émergent face à cette incertitude politique et cette crainte pour l'après. C'est vous Guillaume au Figaro qui avez relevé ces fameuses clauses un peu nouvelles qu'on voit apparaître sur les actes de vente. C'est quoi exactement?
Pour ceux qu'on connu en fait, c'était ce qui s'était passé en 1981.
Moi, j'étais pas née.
Voilà. Mais on va rappeler, et je pense que certains auditeurs peut-être s'en souviendront, les fameux chars russes qui étaient censés défiler à Paris. Et donc, du coup, les propriétaires en panique disent, moi, je vais prendre mes affaires et je vais aller en Suisse ou je ne sais où. Aujourd'hui, il y a une espèce de panique qui peut y avoir chez certains acheteurs, propriétaires. En gros, c'est un notaire qui raconte avoir été contacté par un client qui dit que en 80 il a mis une clause dans la promesse de vente pour dire si jamais là aujourd'hui le nouveau Front populaire
à l'époque c'était François Mitterrand
du coup je veux que la transaction soit annulée. Alors se pose la question déjà, est-ce que c'est légal?
Question qu'on vous pose Guillaume, est-ce que c'est légal?
Je vais employer, mais je vais rapidement l'expliquer, un terme un peu technique. Une clause suspensive ne doit pas être potestative.
Est-ce qu'on peut l'épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio?
Elle ne doit pas dépendre ni du vendeur, ni de l'acheteur. Prenons l'exemple du crédit. Ouais. Une clause suspensive d'obtention de crédit. Même si l'acheteur doit monter un dossier solide, donc il y a une forme de responsabilité de sa part. C'est quand même la banque qui décide du taux. Là, même chose. Ok, d'accord, le vendeur et l'acheteur sont des électeurs, donc ils ont une voix, mais c'est deux voix qui sont diluées parmi des millions. Donc on ne peut pas considérer que dans une élection politique...
Êtes en train de dire, Guillaume, qu'on peut effectivement, légalement, faire figurer une condition suspensive...
À condition, ça c'est très important, évidemment, que le vendeur accepte. Parce que si... le vendeur n'est pas d'accord, cette clause est considérée comme nulle. Une clause suspensive n'est légale que si
elle est acceptée par les deux parties.
Acceptée par les deux parties.
Il accepte à un moment où il signe.
Exactement, oui. À partir du moment où du coup... Bon, là, j'ai recontacté du coup le notaire. Il se trouve qu'en fait, la transaction est en stand-by. J'ai eu également...
En attente, bon français. Parce que vous ne pouvez pas nous apprendre le mot potestatif et derrière dire en stand-by.
En attente. Et donc, d'autres réseaux, j'en citerai un notamment Barnes, qui nous a dit qu'à Marseille, il y a également deux acheteurs qui ont demandé à ce que cette clause soit insérée. Donc on sent que ça reste très isolé, des cas isolés. Mais on sent quand même qu'il y a une forme peut-être de panique chez certains.
Le profil des acheteurs, je pense vous citez Barnes, donc on imagine que c'est des biens quand même plutôt type.
Généralement c'est des profils de. Alors ils nous l'ont pas dit comme ça, mais bon, on va dire que c'est des.
Est-ce que c'est des étrangers?
Non, c'est des Français, c'est des seniors qui ont du patrimoine. Voilà. Après, ils nous ont pas dit est-ce que c'est la résidence principale ou la résidence secondaire. Mmh. Non, voilà, c'est à peu près le profil.
Mais on est plutôt sur un marché haut de gamme, c'est-à-dire que le commun des mortels ne se pose pas forcément la question de mettre une clause suspensive en fonction du résultat des élections.
Alors, certains, au sein des notaires, il y a quand même certains qui vont vous dire est-ce qu'on doit répondre à, je les cite, répondre aux caprices que fantasquent des gens.
Exactement.
Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a caprice et caprice. Maintenant, chacun se fera son idée. Est-ce que l'arrivée d'un parti extrême au pouvoir est considérée comme un caprice? Enfin, d'anticiper cette arrivée, est-ce que c'est un caprice ou pas? Ça, c'est à chacun de se faire son
opinion. Est-ce que caprice, c'est le bon mot? Si on reprend le couple dont vous parlez, enfin les gens dont vous parlez qui sont des retraités, peut-être qui ont épargné toute leur vie pour acheter le bien où ils vont finir leur vie. Pas vraiment un caprice, c'est quand même la réalisation d'une vie.
Oui, ouais. Alors après, il faudra qu'on regarde aussi dans cette émission si véritablement, quels que soient les blocs politiques en présence, ça pourrait bouleverser la donne.
Non,
mais c'est vrai, parce qu'il y a un vrai sujet, il faut justifier la question de l'inquiétude aussi.
Parlons du neuf.
Parlons du neuf, parce que quand même, on a Céline, et moi, ça me fait tellement plaisir.
Moi aussi.
Bon, là, du coup, on va un peu déchanter. On en est où de ce marché du neuf qu'on a beaucoup dit, j'ai envie de dire moribond, mais bon.
Vous surtout.
Non, mais je suis pas la seule, je pense qu'on va le voir avec Céline, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Hier, il y avait le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers qui se tenait près de Lille.
Et vous y étiez?
J'y étais. J'ai mené l'enquête et effectivement, c'était plutôt morose, comme on peut s'en douter. De toute façon, le thème du congrès, ça s'appelait déjà urgence logement, et ça avant même l'annonce de la dissolution surprise. Donc forcément, l'état d'esprit n'était pas au beau fixe avant de commencer. Autant vous dire que c'était très compliqué hier, dans le sens où la demande a disparu. Il faut quand même rappeler que les besoins sont toujours là. On a toujours besoin de loger les Français. Donc, il y a clairement une question de confiance qui se pose pour que, notamment, des investisseurs reviennent sur le marché. Il faut rappeler le contexte. L'année 2023, c'était la pire année qu'a connue la promotion immobilière depuis que les statistiques existent. Et en ce début d'année, sur les 5 premiers mois de l'année, on a déjà perdu 25% de ventes encore en plus par rapport à l'année dernière qui était déjà catastrophique. Donc forcément, les promoteurs étaient plus qu'inquiets.
Là, justement, par rapport à cette inquiétude, je voudrais parler, alors évidemment, de l'absence d'offres, de fait aussi, de la difficulté de trouver une demande finançable. Maintenant, on en est où de tous les corps de métier liés à ce logement neuf? Vous parliez des promoteurs. Où est-ce qu'on en est du côté de la santé économique des promoteurs et de tous les métiers qui sont liés finalement à la construction de logements neufs, je pense aux artisans, mais pas que. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup dit que c'était quand même un risque énorme, considérable sur l'emploi en France.
C'est le cas, puisque les promoteurs, certains vous annoncent, déjà il y a des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été lancés chez la plupart des grands promoteurs
nationaux. C'est ça, même les géants ne sont pas du tout épargnés.
Clairement non, peut-être plus que d'autres qui ont peut-être plus des petites structures ont peut-être les reins peut-être paradoxalement plus solides. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que on nous annonce entre 10 voire 35% de réduction des effectifs chez les promoteurs. Donc 10% c'est le minimum, et puis ça peut aller beaucoup plus, sans parler de ceux qui ont mis déjà la clé sous la porte. Alors finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça par rapport peut-être à certains qui pensaient, notamment au plus haut sommet de l'État, que ça allait épurer, que ça allait réduire le nombre de promoteurs. Finalement, vu la crise qu'ils traversent, parce que quand l'année dernière ils ont perdu la moitié de leurs ventes et à nouveau 25% cette année, on aurait pu imaginer quelle entreprise peut résister à ça. Eh bien, ils résistent, ils font le dos rond, on va dire, pour l'instant. La question, c'est jusqu'à quand.
Et puis c'est un peu moins vrai pour les constructeurs de maisons, d'un mot quand même.
cette
Les constructeurs de maisons, ils ont quand même perdu aussi la moitié de leurs ventes l'année dernière. Ça va pas bien non plus. Et on va être à peu près, on est à peu près sur une année glissante à 60 000 maisons quand les belles années, on en construisait du coup 120 000.
Ah, oui, parce qu'on se souvient, pendant le Covid, c'était vraiment la vedette, la maison individuelle. Et c'est le rêve des Français, de 75 à 80% des Français. Aujourd'hui, quand on interroge les professionnels, des maisons à 350, 400 qui, il y a deux ans, partaient très rapidement, aujourd'hui, comme on sait que le marché, c'est un marché acheteur, les gens prennent leur temps parce qu'ils savent aussi qu'ils ont plus de choix. Mm. Donc, c'est vrai que même la maison, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'au Figaro, dès qu'on fait des articles, quel que soit le profil et l'actualité, c'est impressionnant les réactions, les inquiétudes que ça peut avoir.
Sur des articles sur quoi précisément?
Sur les maisons, la maison individuelle. Ouais. Et comment dirais-je, l'avenir pour ces maisons. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de rêves. Il y a quelques semaines ou quelques mois, Gabriel Attal, Premier ministre, parlait du fameux rêve du pavillon à la française qu'on veut relancer, etc. etc. Mmh. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, les gens ont envie de ça. Maintenant, quelle proposition, quelle solution les différents partis leur proposent? Ça, c'est
un super teasing qui nous fait, Guillaume, parce que justement, dans la deuxième partie d'émission, on va commencer à rentrer dans le dur de ce que nous proposent les politiques aujourd'hui, et on démarrera justement par tout ce qui pourrait impacter les acteurs au sens large du logement neuf. Donc je vous propose de rester à l'écoute de la suite de nos débats.
Parfait timing pour partir en publicité. Vous restez avec nous. Quand vous revenez, Guillaume Erard du Figaro sera là, Céline Coletto de trouverunlogementneuf.com aussi, et puis Marie et moi. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
C'est vendredi, les expertes réunis pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. On est avec Céline Coletto, journaliste sur le site trouverunlogementneuf.com, et Marie Cœur de Roi, bien sûr. On parle du neuf. On va s'intéresser, au-delà du neuf, à la politique et aux propositions des différents partis pour dynamiser, insuffler une nouvelle vie. Ouais. Faire bouger le secteur. Marie, vous allez être notre Miss Météo de la politique et nous lister les différentes idées inventives, pour le moins, des différents partis.
Chose première, chose due, on va d'abord s'intéresser à ce qui pourrait toucher, bouleverser, impacter, je ne sais pas comment le dire, le secteur du neuf au sens large. Donc, je les égrène rapidement et vous allez me dire, chacun d'entre vous, Guillaume, Céline, ce qui vous inspire le plus, que vous pensez comme étant le plus impactant positivement, pas d'ailleurs pour le secteur. Remise en cause du zéro artificialisation nette pour le Rassemblement National. Remise en cause toujours pour le RN du calendrier passoire thermique. Accélération des rénovations pour la majorité sortante. On nous promet 300 000 logements rénovés de plus. Renforcement des aides à la rénovation pour la gauche, avec un zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes. Et puis, on a aussi, du côté de la gauche, un prêt à taux zéro renforcé et un prêt à taux zéro de 100 000 euros pour le Rassemblement National. Toutes ces mesures-là peuvent de près ou de loin avoir un impact sur notre secteur du neuf. Lesquelles vous paraissent les plus importantes, quoi que vous en pensiez aujourd'hui?
Tout ce qui peut relancer la demande, sur le principe, c'est très bien, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui au secteur. Après, déjà, il faudra savoir quelles sont les précisions, parce que par exemple, sur du PTZ, tout le monde en parle, mais on n'a encore pas de ciblage, on ne sait pas à qui ça va s'adresser. On peut imaginer, parfois on évoque que le PTZ a un certain effet inflationniste, donc il faut savoir, effectivement, là, il faudra que ça soit très bien ciblé, et puis se dire que quand c'est dans le neuf, un prêt à taux zéro, ça permet de créer un logement aux dernières normes environnementales, avec des factures énergétiques réduites pour la personne qui va l'occuper. Et puis, une valeur verte en plus sur l'avenir, par rapport effectivement à une passoire thermique. Et puis aussi de se dire que si c'est bien ciblé, un logement neuf, ça permet de créer des recettes, ça crée de l'emploi, parce que c'est non délocalisable. Donc un logement, c'est deux emplois créés sur 18 mois. C'est pas rien. Et ensuite, ça crée de la rentrée de TVA, ça crée des taxes foncières pour la collectivité qui le construit. Donc c'est, on va dire, peut-être un bonus, moi, sur le PTZ dans le neuf.
Guillaume ?
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Céline. Après, si on regarde donc la question des passoires thermiques, on le sait très bien, dans
le calendrier.
Faut pas oublier, dans six mois, c'est le début. Alors, il y a déjà les pires passoires thermiques qui sont interdites à la location, mais là, l'ensemble des jets, donc c'est à partir du 1er janvier 2025. On sait que ça crispe énormément les professionnels parce que, selon eux, ça assèche le marché locatif. Il va falloir voir, encore une fois, si jamais, est-ce que déjà c'est une suppression, est-ce que c'est un allègement? Si c'est un allègement, c'est quoi les conditions? Je rejoins Céline, pour le coup, c'est très flou pour l'instant. Mais bon, encore une fois, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est crispant. Et puisque, au-delà de l'enjeu écologique qui est majeur, il y a aussi l'enjeu de loger les gens. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les jeunes, ils ont ce souci-là. Premier réflexe, c'est se loger.
Donc, pardon Guillaume, je vais mettre les pieds dans le plat. Ouais. Donc vous dites, quitte à, comme on est tellement en pénurie de logements à louer, pourquoi pas remettre ou garder des passoires thermiques à la location, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi climat et résilience.
C'est vrai que le calendrier peut paraître intenable. Maintenant, à un moment donné, il va falloir y aller. Parce que si c'est pour reculer pour mieux sauter, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut trouver un juste milieu. Parce que c'est vrai que quand ils ont lancé cette fameuse loi climat et résilience, il n'y avait pas ce problème sur le marché locatif. Là, clairement, aujourd'hui, on a un vrai problème qui est majeur.
Oui, je pense qu'il y était déjà, mais je pense qu'il faut aussi se mettre, alors, du côté du propriétaire bailleur qui n'a pas fait les travaux, lui se dit effectivement, banco. Par contre, le propriétaire qui lui a joué le jeu, qui avait peut-être une passoire thermique et qui a fait des travaux pour être dans les clous, pour pouvoir continuer à louer à partir du 1er janvier, il peut être un petit peu énervé si on lui dit finalement le calendrier il est repoussé.
Et puis
le locataire surtout, le locataire qui aujourd'hui vit dans une passoire thermique et une passoire énergétique et qui a froid l'hiver, qui a chaud l'été et puis qui en même temps, à des factures énergétiques énormes. Donc, il faut savoir aussi, on sait qu'il y a des millions de gens en France qui sont mal logés, et c'est, entre guillemets, à cause de ces passoires énergétiques. Donc, il faut trouver le juste milieu, c'est sûr. En tout cas, on le sait, on est tous comme ça, on travaille tous dans l'urgence. On a l'habitude, en tout cas. Donc, le propriétaire, il a peut-être attendu le dernier moment. Peut-être qu'aujourd'hui, le calendrier, il n'est pas tenable. Mais il faut se dire que un calendrier, ça force des gens à faire des travaux. Donc, promettre qu'on va repousser le calendrier, c'est peut-être un petit peu décevant pour ceux qui ont joué le jeu et puis surtout pour ceux qui habitent ces logements-là.
Et justement, je m'adresse à tous les deux par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je suis propriétaire bailleur, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Qu'est-ce que je fais compte tenu de ce contexte-là et de cette proposition du Rassemblement national? Est-ce que vraiment je dois continuer, si par exemple j'avais le projet de faire les travaux? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui avaient l'intention de le faire? Attendez.
C'est vrai que jusque...
Non, parce qu'après, c'est votre patrimoine aussi. C'est votre patrimoine. Vous parlez patrimoine ici toute la journée. Non, c'est votre patrimoine.
Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à cette dissolution, il y avait une vraie tendance qui était les propriétaires préféraient vendre plutôt que de faire les travaux. Alors après, à charge pour les acheteurs de le faire, et c'est ce que le gouvernement comptait là-dessus pour justement développer
faire de la rénovation
cette rénovation des bâtiments. Mais clairement, aujourd'hui, la tendance, c'est... Je ne sais pas si elle s'est confirmée encore là, mais avant ce contexte, c'était vraiment clairement les gens préféraient.
On levait le pied aussi parce que les aides n'étaient pas lisibles. Soyons honnêtes, Guillaume, les aides étaient peu lisibles. Elles changeaient toutes les trois semaines, tout comme le DPE. À un moment donné, on nous a dit on finance que les rénos globales en début d'année, puis on est revenu parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en fait, c'est peut-être plus simple d'y aller petit à petit et de commencer par de ce qu'on a appelé le monogeste, geste par geste.
Il faudra peut-être se pencher aussi à un moment donné sur MaPrimeRénov parce que les allers-retours incessants, je me mets à la place de ceux qui justement veulent faire des travaux. Un coup, on nous dit il faut faire de la rénovation globale, sauf qu'on n'a pas assez d'aide. Et puis on dit finalement, les monogestes vont pouvoir être éligibles à MaPrimeRénov. Donc, je me mets à la place des professionnels. Ils recrutent pour faire plus de rénovation globale. Et en fait, on veut. Donc, c'est un flou total. Et je pense qu'à un moment donné, ce serait bien qu'on. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de mesures sur MaPrimeRénov.
On a un auditeur fidèle qu'on salue, François, du côté de la Nouvelle-Aquitaine de Niort, si je ne dis pas de bêtises, qui nous a envoyé une liste d'idées. Enfin, plutôt
François...
une liste.
Premier ministre.
Ouais. Déjà ministre du logement.
Ministre du logement, ça serait bien parce que c'est ce dont on a besoin.
Hein. François nous écrit régulièrement. Merci François. Il veut remettre le logement à la place centrale qui lui est due. Il a plein d'idées. Il nous a listé un long mail. Et concernant la rénovation et la réhabilitation, il a des idées qui sont un peu en ligne avec ce qu'on est en train de se dire. Il voudrait interdire à tous les bailleurs la possibilité de donner un congé pour vendre son bien quand le locataire est toujours présent. Lui proposer des solutions donnant gagnantes pour qu'il reste et améliore le logement si le bailleur est frileux pour rénover. Et lui proposer de racheter le bien en ayant diminué les loyers déjà versés pour les primo-accédants. Moi, je trouve ça intéressant.
Ouais, une sorte de leasing, là, c'est ce qu'ils proposent. Après, interdire la possibilité de donner congé à son locataire.
Je crois pas que ce
soit
trop possible.
C'est pas demain la veille, mais.
Ah, c'est toujours la problématique des travaux. C'est-à-dire que quand t'as des travaux à faire, c'est difficile de les faire avec le
locataire en place. Alors après, ça dépend. Moi, je salue Hassan Mouab qui vient régulièrement sur l'antenne diagnostiqueur et qui sait de quoi il parle et qui nous dit quand même qu'il y a des possibilités de faire quand même pas mal de travaux en présence de l'occupant, que ce soit locataire ou propriétaire. Tout dépend de la surface et des travaux qu'on va faire. Mais effectivement, le sujet de la rénovation, ça me permet de rebondir. J'avais pas prévu cet ordre-là, mais en fait, on va le faire puisqu'on parle du marché locatif. Justement, alors, je vais pas refaire mon coup de gueule que je fais quasiment quotidiennement, mais quand même, en dehors de ces sujets de passoire, est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions de nos différents blocs politiques sur ce marché locatif qui traverse pourtant une crise historique? Je m'adresse à vous.
C'est pour ça qu'il faut construire du logement neuf, parce que en fait, voilà, les logements vacants qui existent, ils sont dans la diagonale du vide, là où personne ne veut habiter. C'est le dialogue, c'est le discours en tout cas de la Fédération des promoteurs immobiliers, clairement, parce que aujourd'hui, il faut des logements dans les grandes métropoles, dans les zones touristiques, etc. Et qu'aujourd'hui, on n'en construit pas, on n'en construit plus, on n'en met plus en vente. Hier, une petite indiscrétion, un très gros promoteur français qui aurait enlevé de la vente 11 200 logements. C'est-à-dire des projets qui étaient prêts, qui étaient commercialisés. Il arrête les projets, en fait. Il y a pas de demande en ce moment. Donc, il y a pas de choix. Il y a personne pour acheter. Donc, ça leur permet de déstocker les programmes qu'ils ont déjà. Et puis, ils attendront que ça reparte. Mais ils sont même pas sûrs que ça reparte au niveau des belles années qu'on a pu connaître, 2017, etc. Donc, ils ont mis clairement le frein sur le logement. Donc, c'est quand même très grave pour notre pays, parce que on est supposé construire 500 000 logements neufs par an en France pour renouveler le parc.
On est à quoi, à 280 000?
On va être à 280 000, on va être à 280 000, mais ça veut dire que derrière, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas d'accession à la propriété sociale, etc. Donc, en dehors du métier de promoteur qui vit des heures difficiles, c'est le logement des Français, hein. Donc c'est ça qui est important à avoir en tête.
Ouais, et puis il y a ce mea culpa du président de la République qui nous dit qu'ils en ont pas fait assez sur l'accès au logement des jeunes. C'est vrai que accès au logement, on pense plus à l'acquisition qu'au locatif.
Il a dit logement étudiant.
Ouais.
Logement tout court aurait suffi à mon sens, mais enfin.
En tout cas, derrière, deux jours après, même si en interne au Figaro, on nous a dit qu'ils étaient dessus depuis 3 mois, je pense que c'était surtout une réponse au mea culpa d'Emmanuel Macron. On nous annonce donc, pour les primo-accédants, plus de frais de notaire. Alors, j'explique très très rapidement parce que c'était vraiment pas clair du tout. En gros, aujourd'hui, vous serez éligible selon votre revenu fiscal de référence, qui serait, ça n'a pas été encore fixé, mais le plafond avoisinerait les 4 000 euros.
4 000 euros de revenus par mois net.
C'est ça. Revenu fiscal, voilà.
Fiscal, oui.
Exactement. En gros, après, si vous cochez cette case, après, il y a le pivot du prix. Si votre logement coûte moins que 250 000 euros, vous avez zéro frais de notaire. Alors, il faut dire exactement droit de mutation, parce que sinon, les notaires ne vont pas être contents.
Mais c'est vrai, pauvres.
Voilà. En gros, c'est évidemment pas du tout question de toucher aux émoluments des notaires, c'est la part qui revient à l'État et aux collectivités locales.
En gros, c'est 5,89% précisément, voilà, de ce que vous payez.
Exactement.
Sur un bien immobilier.
Donc, ce qui fait à peu près, au max, si on prend ces 250 000, quelque chose comme 15 000 euros, à peu près, d'économie. Si c'est au-dessus de 250 000, le surplus, par exemple, vous achetez un logement à 300 000, vous serez exonéré des frais de notaire sur les 50 000.
Bon. Sur les 250 000
Non.
Non. Si vous achetez un bien à 300...
Je ne paierai que sur 50 000. Que sur 50 000, voilà.
La question, c'est de savoir, ces économies, est-ce que les vendeurs vont le répercuter sur les prix?
L'effet inflationniste.
Donc, est-ce qu'il y aura... Alors, on nous explique que, a priori non, parce que les vendeurs ne seront pas au courant qu'en
face
ils auront un primo-accédant qui sera éligible. Donc là aussi, il faut voir.
Il y a quand même un autre sujet sur les finances locales, parce qu'on rappelle que les notaires doivent, qui collectent ces frais de notaire et donc ces droits de mutation qui vont aux collectivités locales, ils versent dans le mois l'argent aux départements et aux communes concernées. On rappelle que l'État n'est pas forcément le meilleur payeur de France, et que tout comme ils avaient promis de rembourser les collectivités à l'euro près sur la taxe d'habitation,
les départements sont
en fait parce que là on propose que ce soit effectivement cette exonération de frais de notaire, et c'est de l'argent qui revient
normalement au département principalement, oui. Faut le dire. Donc c'est voilà. Et puis ça veut dire que c'est l'État qui fait une mesure qui en fait c'est pas de l'argent qui lui rapporte à lui, donc peut-être un petit peu facile. Mais tout ce qui est bon pour relancer la demande, je pense, sera bon à prendre parce que là on est dans le dur. Les Français ne peuvent plus acheter, donc il faut les soutenir.
Pardon, je vous aime très fort, mais au départ je voulais parler du marché locatif et pas de l'accès à la propriété.
Mais en fait ça en découle.
Non, bien sûr, mais enfin quand même je voudrais je reste
la harpie locative de retour.
Oui, c'est ça, la harpie locataire spéciale dédicace à une tweeteuse qui m'adore.
Si t'as des gens qui peuvent acheter et qui après mettent en location, bah du coup ça alimente le marché.
Non mais d'accord, mais on a quand même aucune annonce du côté du Rassemblement National ou de la majorité sortante concernant le marché locatif, que ce soit au niveau des loyers, que ce soit au niveau des bailleurs sociaux qui disent qu'ils sont dans une situation gravissime pour produire du logement social, à part la gauche. Donc je voudrais vous faire réagir sur les propositions du nouveau Front Populaire sur le sujet, et au menu notamment une hausse de 10% des APL. Vous avez également un encadrement des loyers dans toutes les zones tendues, la création d'une vraie garantie universelle des loyers. Et sur le logement social, vous avez la suppression de ce qu'on appelle la RLS, la réduction du loyer de solidarité, qui réduit la trésorerie des bailleurs sociaux depuis 2018 d'environ 1,2 milliard d'euros chaque année. Ceci étant dit, qu'en pensez-vous ?
Après, c'est des mesures, ça coûte de l'argent et on sait que le budget de l'État est contraint, donc c'est des choix qui sont faits.
Mais est-ce qu'il faut aider davantage les locataires, par exemple ? C'est la question que je vous pose.
Est-ce qu'il faut aider plus les locataires ? Certains vous diraient que non, parce qu'il y a des effets inflationnistes sur les APL, notamment. Après, si le logement coûtait moins cher parce qu'il y avait assez de logements en France, il n'y aurait pas besoin d'aider les locataires, en fait. Si on payait le juste prix, entre guillemets, du loyer, parce qu'il y avait... Pourquoi les loyers sont chers dans les zones tendues ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de logements. S'il y avait assez de logements et qu'on avait le choix, voilà. Et il n'y aurait pas non plus de passoire énergétique parce que, du coup, le propriétaire, il serait de fait obligé de faire du logement, de faire des travaux. Là, il a le choix, en fait. Il n'a pas besoin de faire les travaux et il a des gens et à qui il loue des choses chères. Donc, après, voilà, il y a des gens. Il y a des investisseurs bailleurs qui font le choix d'acheter dans le neuf. C'est vrai que c'est plus cher à l'achat, mais derrière, vous avez un logement aux dernières normes. Vous avez des factures énergétiques réduites pour votre locataire. Donc, c'est un choix qui est fait.
Oui, mais vous avez aussi une baisse des loyers. Typiquement, le Pinel qui va disparaître. Le Pinel,
c'est du loyer plafonné.
Vous imposez de pratiquer des loyers environ 15%.
Justement, c'est plutôt responsable comme
principe. Donc, baisser les loyers ou alors aider davantage au paiement des loyers. Guillaume, je me retourne vers vous. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une solution à la crise historique que traverse le logement et nos étudiants qui vont peiner à se loger de nouveau cette année au mois de septembre?
La solution de l'encadrement des loyers, moi, ça me fait penser à l'élargissement. Ça me fait penser, encore une fois, à la politique que voulait mettre en place le précédent ministre Patrice Vergriete et cette politique de décentralisation. En gros, aujourd'hui, avant, c'était l'État qui décidait si une ville pouvait encadrer ou pas les loyers. Là, cette politique, c'était de dire, au contraire, on laisse la main au maire. Bon, je trouve que c'est une bonne idée dans la mesure où c'est les vrais acteurs du marché et voilà, ils constatent ou pas une tension sur le marché locatif. Est-ce que ça mérite ou pas d'encadrer les loyers ? Après, il y a toujours ce complément de loyer, donc qui permet encore une fois aux propriétaires d'augmenter plus que le plafond à partir du moment où il y a une situation, une localisation exceptionnelle, une vue magnifique.
Quand on fait du meublé, ça, on est d'accord.
Quand on fait du meublé. Donc,
c'est bien le problème. Hein. On fait trop de meublé et pas assez de location nue. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Absence totale de changement d'ordre fiscal.
De toute façon, le logement, on en parle plus. On en parle tous les jours. On fait tous des sujets tous les jours. Ça n'empêche pas que même si les promoteurs avaient l'air de dire on parle enfin du logement, parce que c'était encore pire à la précédente campagne présidentielle et législative, il faut quand même dire que c'est le nerf de la guerre, en fait. Être bien logé, avoir un toit sur la tête, c'est on devrait en parler beaucoup plus. Ça devrait être le thème central de cette campagne, en fait.
On avait prévu de parler d'autre chose. On avait prévu de parler d'innovation. D'innovation de promoteurs, notamment à Montpellier. Il nous reste 1 minute 30.
Oui, en fait.
1 minute pour nous toucher un mot sur cette innovation et finir de
Allez, ça marche. Positive. Les promoteurs, ils ont terminé leur congrès hier en disant restons fiers d'être promoteurs. Et effectivement, il y a des collectivités qui jouent le jeu, notamment la métropole de Montpellier, qui a lancé des folies architecturales, des projets d'envergure, et puis des promoteurs qui jouent le jeu derrière. Quand ça se rend compte, il faut le dire. Et on a effectivement des promoteurs, alors là, par exemple, une une des folies qui vient d'être entre guillemets un peu dévoilée, et ben c'est la folie Oasis, donc du promoteur Sogeprom Pragma, qui est une deux tours. Voilà, bah, vous voyez les images.
Ceux qui nous suivent en écran, ça, ouais, on les voit.
C'est quand même des projets architecturaux qui sont exceptionnels. C'est du bambou sur les terrasses, donc c'est un matériau biosourcé. Et en fait, la décision qui a été prise, c'est de faire de très grandes terrasses qui nous ont tant manqué pendant le confinement. Et voilà, c'est vraiment très innovant. Il y a du logement abordable.
Et donc ça, c'est à Montpellier, ça, Céline.
Ça, c'est à Montpellier.
Et ça, c'est des projets.
Alors non, là ça vient d'être lancé commercialement, le permis de construire est en attente, mais c'est vraiment dans les tuyaux.
Et ça sortira de terre quand ?
C'est livraison été 2027, donc c'est tout proche. C'est voilà, et puis il faut le temps de construire ça. C'est des très grands logements. Il y a du logement abordable dans ces opérations. Le petit bâtiment, c'est du tertiaire. Donc voilà, c'est du mix. Il y a des terrasses partagées, il y a des choses comme ça, et il y a toute une réflexion qui est faite autour de comment construire en Méditerranée. Il y avait un autre projet aussi de Roxim, c'est des tours végétalisées, et des tours végétalisées à côté de l'hôtel de ville. Donc voilà, il faut en parler quand il y a des choses qui se font et qui sont pertinentes et qui sont innovantes
et qui sont belles. Si vous n'avez pas pu voir ces images, ce sont les Folies à Montpellier.
Oui, alors là, c'est le projet Oasis, mais il y en a d'autres.
Projet Oasis à Montpellier.
Soyons
fous. Les innovations immobilières. C'est déjà demain, si c'est disponible en 2027. Merci beaucoup.
Ça s'achète maintenant.
À tous les trois. Merci Céline Coletto, qui portait la voix du neuf, journaliste à trouver un logementneuf.com, et Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. Et vous, Marie, merci pour cette belle semaine d'information immobilière. On espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de réflexion, toujours économique, n'est-ce pas ? Parce que nous ne sommes pas là pour parler de politique, mais d'économie, de réalisme économique. À suivre pour ceux et celles qui trouvent et qui pensent que les cryptos sont des actifs comme les autres, eh bien restez branchés parce qu'Amaury Tonquédec arrive pour faire le point sur la semaine crypto. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans les cryptos, le Web3, la finance décentralisée, ce sont les objets de réflexion d'Amaury Tonquédec. Bonjour Charles Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Journaliste crypto au BFM Business, aux manettes de Tout pour investir. Merci pour cette belle semaine d'ailleurs Amaury. Nous avons deux actus en tête pour finir la semaine en crypto. On va parler de la possibilité, non pas d'une île, mais d'un ETF Solana aux États-Unis. Racontez-nous.
Alors, pour rappel, on a des ETF Bitcoin Spot qui sont listés aux États-Unis depuis la mi-janvier. Voilà, ça a été des flux historiques. Ça a cartonné, ça continue de cartonner. C'est ce qui a alimenté une bonne partie de la hausse du Bitcoin ces derniers mois. On a, il y a quelques jours, des ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés sur le principe. Ils vont être listés dans quelques jours, le 4 juillet peut-être. Donc, c'est très bientôt. Voilà,
dans des États-Unis.
Voilà, c'est ça. Est-ce un signe ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait être listé dès le 4 juillet sur les marchés et donc disponible. Et on a appris hier, grande nouvelle, aux alentours de 15h heure française, que VanEck, une des grosses sociétés de gestion américaines, a déposé une demande d'ETF pour la crypto Solana.
Qui est Solana ?
Solana, en fait, c'est une blockchain qui permet de faire plein de choses, qui a un token qui s'appelle le SOL, S-O-L, et ils aimeraient bien, enfin, en tout cas, la société de gestion VanEck a déposé une demande pour que cette crypto puisse avoir son ETF. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est toujours pas tranché si c'est une commodities, une sécurité, si c'est un titre
même
financier.
Même débat sur l'Ether.
Exactement. Sauf que pour l'Ether, c'était quand même plus... L'Ether avait quand même plus de chances d'être une considérée comme une commodities parce qu'elle est plus décentralisée. Solana, c'est moins décentralisé. Ça va se régler avec la SEC. Maintenant, tout bouge tellement vite. Tout est tellement politique aujourd'hui. On a les élections qui arrivent en novembre que, voilà, rien n'est impossible. En tout cas, il y a eu de la spéculation parce que dans la foulée, le cours du SOL a pris une dizaine de pourcents. Il y a aussi tout l'écosystème Solana qui a bondi et aussi beaucoup de memecoins, on en a déjà parlé dans cette émission, Lorraine, qui sont basés sur cette blockchain, notamment des memecoins politiques au niveau de Trump et Biden notamment. On a eu un débat assez animé hier et donc on voit...
Animé ou pas, oui.
Bon, ça dépend comment on voit les choses.
Pré-mortem.
Voilà, c'est ça. En tout cas, il a été beaucoup commenté sur la forme, plus que sur le fond.
Voilà, la possibilité d'un ETF Solana. Le Solana qui se négocie autour de $145. Alors, on se parle un petit mot de Binance, cette plateforme d'échange crypto qui n'est plus numéro 1.
Alors, Binance, ils sont toujours numéro 1. Ils ont même voilà, c'est la plus grosse plateforme.
Ah oui, je dis n'importe quoi.
Là, c'est Bybit.
Maintenant mais en même temps, ils ont un gros concurrent.
Noms, voilà, c'est ça. Non, en fait, Binance, ils restent numéro 1 largement. Voilà, ils ont actuellement 54% des parts de marché, donc c'est colossal. Mais derrière, c'était l'américain Coinbase, et maintenant c'est plus Coinbase, c'est Bybit qui a 16% des parts de marché. Coinbase maintenant à 8%. Voilà le top 3 des plateformes. La raison pour laquelle Bybit grappille des parts de marché, c'est notamment les frais qui sont très compétitifs, hein, qui font partie des plus bas du secteur, et ils ont aussi une offre de produits dérivés qui est très dynamique et qui prend encore des parts de marché. Donc c'est pour ça que tout simplement la plateforme en elle-même derrière gagne des parts de marché. Et aussi, je le rappelle, on a eu une condamnation de CZ Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, en avril dernier, condamnation à 4 mois de prison ferme pour blanchiment d'argent, et ça a pas dû rassurer les investisseurs, certains investisseurs de Binance, qui ont préféré donc aller sur d'autres plateformes, ce qui a profité entre autres à Bybit.
Quelle nationalité Bybit?
Bybit, je sais pas, bonne question, je veux pas dire de bêtises. C'est pas français en tout cas.
Parce que c'est compliqué, hein, finalement, parce que en fonction du pays dans lequel vous êtes, peut-être ces entreprises ont une entité, par exemple française, donc vous pouvez ne pas avoir à ouvrir un compte à l'étranger.
C'est pas évident parce que Binance, à la base, c'est pas français, mais la filiale Binance France peut être considérée par rapport à la fiscalité en France par une entreprise française. Voilà, c'est un débat qui est pas totalement tranché. On posera la question à nos avocats d'ailleurs.
Les actus crypto, ça se passe tous les jours dans BFM Crypto, le club à 15h avec vous, à Amaury Tonkedev, sauf le vendredi où c'est d'habitude Guillaume Sommerer, mais aujourd'hui notre Stéphane Pedrazzi qui sera aux manettes.
C'est compliqué. Hein.
Il faut suivre. voilà, on est en équipe. Bybit, c'est basé à Dubaï, bon, votre info. Voilà, ils sont partout, même dans les cryptos maintenant, le Moyen-Orient. Sur cette considération de Madame Michu, Sandra Gandoin nous a rejoint. Bonjour Lorraine. Vous êtes aux manettes d'Avec Vous dans quelques minutes. De quoi allez-vous parler aujourd'hui?
La vie en entreprise, comme tous les jours. On va essayer de répondre aux questions que vous nous posez sur notre adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Par exemple, comment organiser le contrôle d'un salarié en arrêt maladie, si vous avez un doute. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes codes et les mêmes solutions à l'expérience client et l'expérience collaborateur? Et puis, pourquoi intégrer un réseau féminin, notamment si on est dirigeante d'entreprise? Quelles sont les raisons? Comment ça va vous aider? On va répondre à ces questions et à toutes celles que vous voulez nous poser. Je rappelle donc l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. On est aussi en live sur LinkedIn et YouTube notamment.
Voilà, avec vous, c'est tous les jours dès midi. Pour nous, Tout pour investir, on sera de retour dès lundi en direct à 10h. On a prévu de parler du sentiment de marché de Julien Nebenzahl, notre senior advisor chez Advise, pour bien démarrer la semaine. Et puis lundi, on fera une spéciale Small et Mid Cap. On se concentrera sur les petites et moyennes valeurs françaises, mais on débordera Europe et États-Unis avec l'ami Eric Lewin des publications Zagora et une autre experte qui sera avec nous. Voilà, le point sur les petites et moyennes entreprises qui... comment vivent-elles la crise? Comment miser dessus? Comment soutenir le tissu d'entreprise? Réponse lundi dans Tout pour investir. Très bon week-end sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.